La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, deuxième semaine autour de la philosophie morale de Jacques Maritain. Qu'en est-il de la définition du bonheur et de son articulation avec le salut ? Dans la somme morale de Jacques Maritain, à savoir la philosophie morale publiée en 1960, Maritain passe en revue différents philosophes autour de la morale. Et il insiste sur l'apport du christianisme parce que le bonheur, qui est la grande question de la morale, qui concerne chacun d'entre nous, est transfiguré. Le bonheur, c'est maintenant la béatitude, écrit Jacques Maritain. Le bonheur absolu est absolument saturant. L'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu. Et elles ne sont pas montées au cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qu'il soit possible à l'homme d'atteindre le bonheur absolu, ce n'est point une donnée de la raison ou de la philosophie, c'est une donnée de la foi chrétienne. La raison, à elle seule, si elle considère non pas sans doute la toute-puissance de Dieu, mais la condition humaine, aurait tous les motifs de nous faire douter de cette possibilité. Le plus malheureux des animaux veut nécessairement le bonheur, et c'est sans doute pourquoi il est si malheureux. Nous sommes affamés du bonheur. Nous faisons de la pursuit of happiness un de nos droits fondamentaux. Nous cherchons le bonheur en toute chose périssable, dans l'amour d'une femme ou dans la conquête du pouvoir. Et il est presque impossible pour nous de croire que nous pouvons être parfaitement, totalement, absolument heureux. À une telle croyance, l'existence que nous expérimentons apporte trop de démentis. Il est deux choses en lesquelles notre nature n'a pas la force de croire. La mort que nous voyons et le parfait bonheur que nous ne voyons pas. En vérité, je te le dis, demain, tu seras avec moi en paradis. C'est une étonnante nouvelle. La foi, non la raison, en est la messagère. Les hommes cherchent tous la béatitude sans y croire. Les chrétiens y croient par la foi. Comment le christianisme permet une révolution en philosophie ? Alors, il y a un point qu'il faut bien rappeler, c'est que la philosophie, avec le christianisme, ne change pas de nature, elle change d'état. Je l'ai déjà dit, comme l'eau peut changer d'état, de glace, de liquide à gaz, le christianisme va faire changer la philosophie d'état. C'est une révélation qui permet de comprendre la profondeur du bonheur. Y a-t-il des précédents, des traces de cette autre façon de comprendre le bonheur ? Oui, on en trouve chez Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque. Aristote distingue le bonheur du plaisir, le bonheur de l'ambition politique, pour arriver finalement à un bonheur qui est la réalisation d'activités qui se donnent des objets théoriques, à savoir la métaphysique, les mathématiques, la physique. Et Aristote va appeler ça finalement la vie de l'intellect, qui est supérieure à la vie quotidienne. Le plaisir ne peut pas être confondu avec le bonheur parce qu'il est infini, il est insatiable et il s'attache uniquement au sens. Il y aura un plaisir de la vie intellectuelle, mais c'est un plaisir beaucoup plus intérieur. Quant à rentrer dans les conflits poétiques, à chercher les honneurs, on peut en être méfiant par rapport à ce critère de bonheur qui est un critère finalement d'abord égocentré et qui n'amène pas un mouvement centrifuge de soi, c'est-à-dire une ouverture, une sortie de soi, parce que pour Maritain, finalement, le bonheur, dans sa perfection, exige une expropriation de soi. C'est un terme que l'on rencontre à la fin de Distinguer pour unir ou les degrés du savoir, quand il va regarder de près la connaissance mystique comme valeur cognitive forte chez un Saint Jean de la Croix ou une Sainte Thérèse d'Avila, et il articulera cette mystique et sa véracité dans le plan cognitif sur cette capacité à être sorti de soi, cette expropriation qui apporte le bonheur suprême, celui de l'union à Dieu, permis bien sûr par la grâce. Alors, le christianisme, dans cette vision morale, va apporter un bouleversement radical, une révolution, parce que le bonheur est articulé, nous venons de l'entendre dans ce texte magistral, sur la béatitude. Y a-t-il des précurseurs ? Oui. En particulier chez Socrate, Maritain va s'arrêter sur la dimension, on va dire, contemplative de Socrate. Le texte rapporte des témoignages de contemporains lorsque Socrate est en armée, à l'armée, en campement. On sait qu'il restait des heures assis, même dans la neige. Et voilà le commentaire de Jacques Maritain. Nous savons que Socrate pratiquait de manière habituelle le recueillement de l'esprit et parvenait de temps à autre, spontanément ou par méthode, il n'est pas possible de le préciser, à des états de concentration hors du commun. L'épisode célèbre de la campagne de Potidée racontée par Platon met en évidence cette étonnante faculté de s'absorber totalement en lui-même. Concentré dans ses pensées, il s'était, à l'endroit même où il se trouvait au point du jour, tenu debout, à viser quelque idée. Et comme elle ne lui venait pas, au lieu d'abandonner la partie, il était ainsi resté en plan à chercher. Il était midi déjà. Les hommes le regardaient, l'un à l'autre, ils se racontaient la merveille. Depuis le petit jour, Socrate est planté là, en train de faire ses réflexions. En fin de compte, le soir venu, quelques-uns de ses observateurs, après leur dîner, et comme justement on était alors en été, transportèrent dehors leur lit de camp, en même temps qu'ils couchaient à la fraîche, en même temps aussi, ils surveillaient si Socrate passerait encore la nuit debout. Or, debout, il resta jusqu'à ce que le jour parut et que se fût levé le soleil. Puis, après avoir fait à celui-ci sa prière, il quitta la place et s'en alla. Dès le début du banquet, Platon nous avait préparé à pareille scène, presque banale dans l'Inde, extraordinaire en Grèce. Il arriva un domestique avec cette nouvelle que le Socrate demandé avait pris pour retraite le vestibule des voisins et qu'il y était tout droit planté. Malgré mes appels, il refuse d'entrer. « Quelle absurdité me contes-tu » s'écria Agathon. « Vite, tu vas l'appeler encore et ne pas le lâcher. » Je pris alors la parole, racontait Aristodème. « Pas du tout. Laissez-le plutôt en paix. C'est en effet une habitude qu'il a, de s'isoler parfois ainsi et de rester planté à l'endroit où il lui arrive de se trouver. Mais il viendra tout à l'heure, à ce que je crois. Ne le troublez donc pas et laissez-lui la paix. » Cet extrait du banquet de Platon frappe. Et Maritain y voit une analogie avec les spirituels indiens connus sous le nom de délivrés vivants. Sans doute, commente-t-il, cet homme qui n'a jamais froid, qui n'a jamais chaud, qui est le seul à savoir jeûner et le seul à savoir boire, le seul qui sache aimer la jeunesse et le seul capable de rester chaste dans cet amour, ce n'est plus un homme. Et si ce n'est davantage un dieu, c'est du moins un être vraiment exceptionnel, un dieu parmi les hommes et un homme qui participe à la vie des dieux. Cependant, alors que l'indianité tend à un état spirituel de pure transparence à soi-même, absolu et simple, le recueillement de l'âme chez Socrate ne s'accompagne pas, que l'on sache, d'une doctrine du vide. Alors que le soi-même du sage indien se situe au-delà de l'opposition de soi et d'autrui, au-delà de tout dialogue et de toute relation même spirituelle, le soi-même socratique est profondément engagé dans le réseau des relations sociales. Socrate est un citadin. Cet homme capable d'être immobilisé pendant des heures par la concentration intérieure passe son temps à bavarder, muser, interroger, piquer et taquiner les gens pour les convaincre d'ignorance, mais aussi pour tâcher d'apprendre d'eux. Il est le maître de la conversation, il trouve sa joie dans le dialogue et la dialectique.
Thank you.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Le génie de Socrate, bien sûr. On a entendu combien Socrate est déjà un contemplatif ou un mystique. Qu'en est-il de sa morale? Eh bien, pour Maritain, la morale de Socrate, c'est une morale qui va unir l'éthique et la raison, et avec plusieurs étapes. La première étape, c'est que Socrate va mettre en avant la notion de bien. Cette idée, naturelle à l'intelligence humaine, comme celle de l'être, ne s'est pas dégagée sans peine, écrit Maritain en commentant la morale de Socrate. Elle n'était d'abord qu'un ferment caché, qui ne se manifestait à la conscience et dans le langage notionnel que par des substituts, où le particularisme des sens et de l'imagination et des prohibitions et des mythes du groupe social masquaient sa valeur intelligible. Le génie de Socrate est de la faire advenir à l'intelligence. En ce qui concerne la vie humaine, le bien, c'est de bien agir et c'est de ne pas manquer sa vie, d'atteindre au bonheur. Deuxième idée, héritée de Socrate, la fin. Il semble bien, écrit Maritain, que pour Socrate, cette fin, le bonheur pour lequel il nous faut agir comme il convient, est impliqué dans notre action même, comme un fruit qui lui est immédiatement attaché. En cela, les épicuriens et les stoïciens ne feront que revenir au socratisme primitif, en cernant d'un trait plus lourd, en transformant en thèse d'école des vues qui, chez Socrate lui-même, restaient pour ainsi dire aériennes et indifférenciées. L'art moral n'est pas l'art de bien vivre en vue d'atteindre le bonheur, c'est l'art d'être heureux parce qu'on vit bien. Cause et conséquence ne sont pas dans le même ordre. L'art d'être heureux parce qu'on vit bien. Et pour sortir de la vue scolaire, la vision aérienne a été traduite en musique par ce magnifique prélude non mesuré en la majeur sous les doigts de Robert Hill de Louis Couperin. Troisième apport de Socrate, c'est que le bonheur et la vertu se trouvent soudés. Il s'agit, écrit Maritain, d'une intériorisation de l'idée du bonheur. C'est pour ça que nous sommes arrêtés longuement sur ces témoignages des moments de solitude, d'extase ou de stase de Socrate. Le bonheur passe au-dedans avec Socrate et il se détermine rationnellement d'après ce qu'est l'homme. C'est à l'essence de l'être humain que se connaît son bonheur. Connais-toi toi-même. Descends dans les profondeurs où ton démon, le daimon grec, habite et où tu deviens conscient des exigences de ton essence et de la valeur de ton âme, qui est un univers à soi-même. Être heureux n'est pas posséder des richesses ou la bonne santé, c'est avoir l'âme bonne. Le bonheur ne fait qu'un avec la bonne conduite. Plus l'expérience paraît démentir cet axiome, plus héroïquement le sage l'affirme. Il n'est démenti par l'expérience qu'au regard de l'insensé. Bonheur et bien sont identifiés, mais en insistant premièrement sur le bien, c'est le bien qui constitue le bonheur. Le bonheur avec un petit b ne consiste pas dans les choses périssables du monde extérieur. Il consiste dans les biens qui conviennent à l'âme et à l'essence de l'homme, dont le pouvoir de connaissance et de discernement rationnel est la marque spécifique et la force propre. Le bonheur consiste dans les biens durables qui sont au-dedans de nous. Il consiste à avoir un esprit libre de troubles, dédié aux belles connaissances et à la vérité. Il consiste à savoir penser. Il est à la portée de notre main. Nous n'avons qu'à le chercher, là où il est. Bonheur des biens durables, bonheur de la joie de la pensée, cela annonce cette vie intellectuelle que va développer Aristote dans l'Éthique à Nicomaque et qui s'oppose à la vie quotidienne. Et pour nous, c'est important, dans ces temps de pandémie où les conditions matérielles pourraient prendre le dessus, les conditions administratives, la masse, le volume horaire que nous passons par jour à nous occuper de questions de code, de clés, de logique informatique, nous éloigne de cette vie intérieure et donc d'un véritable bonheur. Et nous sommes bien avant l'ère chrétienne, l'apparition du Verbe incarné. C'est pour ça que cette lecture de Maritain de la vie socratique me paraît tout à fait fondamentale. Quatrième apport de Socrate, c'est que la vertu est une connaissance. Et là, on a la conclusion à laquelle j'étais arrivée tout à l'heure, la jonction entre morale et raison. L'histoire du mot vertu est elle-même pleine de sens. Que signifie-t-il ? Maritain nous propose une étymologie. D'une façon très générale, le pouvoir ou l'excellence propre et caractéristique par où une certaine nature exerce son activité foncière. Voilà le premier sens de vertu. On parle de vertu de l'aimant, vertu des simples, vertu de la musique, vertu propre à l'architecte ou à l'artisan. Mais quelle est la vertu, le pouvoir ou l'excellence, la plus caractéristique de l'être humain, sinon la disposition solidement établie qui perfectionne intrinsèquement son activité rationnelle dans telle ou telle ligne, et avant tout dans la ligne de la bonne conduite de sa vie, et qui, si nous la mettons en œuvre, nous fait immanquablement bien agir. Ainsi s'est précisée finalement la notion de vertu qui occupe la scène au temps des sophistes et de Socrate, bien que la définition philosophique et la théorie des vertus morales ne datent que d'Aristote. Face à Socrate, les sophistes. Et les sophistes, on peut dire, ce sont d'abord des rhéteurs ou des dogmatiques qui posent des questions qui tournent sur elles-mêmes sans aller au sens même. Et l'apport de Socrate résidera aussi dans le retour critique de l'interrogation philosophique. L'idée de Socrate quant à la vertu, la thèse qui deviendra célèbre, écrit Maritain, dans toute l'histoire de la philosophie morale, c'est que la vertu consiste à savoir et à bien penser. Les vertus sont toutes des connaissances fermes et vraies, donc des sciences. Il pensait que toutes les vertus sont des sciences, dit Aristote. Tout pécheur est un ignorant. On n'est pas méchant parce qu'on veut le mal, mais parce qu'on ne connaît pas le bien. Ça, c'est Maritain qui commente. Ces aphorismes seront glosés en toutes sortes de sens. Pour Socrate, ils avaient toute leur force et devaient s'entendre littéralement. Il semble qu'il n'ait pas fait de distinction claire entre connaissance spéculative et connaissance pratique. Ça, ce sera la distinction faite par Aristote. Probablement, c'est avant tout à une connaissance pratique, à une connaissance morale qu'il pensait, mais en la concevant elle-même comme une connaissance théorique de l'objet des vertus, en telle sorte qu'il identifiait l'excellence morale avec la science de la morale. Ce que Socrate a vu d'une façon décisive, la vérité toute neuve alors, que tout lui découvre et lui rappelle, c'est la dignité rationnelle de l'être humain et l'essentielle rationalité inhérente à l'action bonne. Et il a aussi cette vue, que j'exprime ici d'une façon bien banale, écrit Maritain, mais qui a en elle-même de quoi remplir un cœur et lui faire donner sa vie à une tâche de missionnaire, que tous, nous voulons être heureux, tous, nous souhaitons le vrai bonheur, mais que nous ne savons pas où il est. Nous cherchons tous, en nous cognant à tous les barreaux, la réalité qui délivre et le vrai sens de notre existence, et dans notre ignorance, nous allons à tâtons, et à la place de ce que nous cherchons, nous nous emparons de fantômes. Ce qu'il a vu ainsi, il l'a vu pour toujours, mais il l'a conceptualisé trop vite. Qu'est-ce que la raison, sinon le pouvoir de connaître en son excellence? Qu'est-ce que la rationalité inhérente à l'action bonne, sinon la maîtrise de la connaissance sur l'action qu'elle éclaire et conduit? Donc, et c'est ici que Socrate se méprend, qu'il va trop vite. Donc le principe immédiat de l'action bonne, stable excellence qui nous fait bien agir chaque fois qu'elle est en œuvre, la vertu, c'est la connaissance. Il suffit de bien savoir pour bien faire. N'est-il pas vrai que l'âme est bonne quand elle sait user comme il faut de la richesse, de la santé, de la force ou du plaisir? Oui, sans doute. Mais Socrate ne distingue pas entre ce savoir usé, qui est tout pratique et relève de la prudence du vertueux, non de la science, et savoir comment il faut user, ce qui relève de la science du moraliste. De là, le paradoxe de la pensée socratique. Une inspiration d'ensemble, un élan foncier avant tout pratique, voire pragmatiste, débouche dans des conclusions systématiques qui réduisent la moralité à la connaissance, au savoir, à la vision de ce qui est. Toute faute morale vient d'ignorance, est involontaire. La pratique aura sa revanche, d'où la distinction qui paraît fondamentale à Maritain, la distinction aristotélicienne du plan spéculatif et du plan pratique. Allons voir très très loin en aval, du côté de Baudelaire. Baudelaire, le poète de la modernité. Pourquoi ? Parce qu'en écrivant les fleurs du mal, et non pas les fleurs du bien, il vient casser une équation qui est déjà posée par Socrate. L'équation entre le bien, le beau et le bon. Le bien, c'est-à-dire le bien suprême. Le bon, c'est la morale. Le beau, c'est l'esthétique. Et l'idéal grec qui va être développé par Platon, le kalos kagatos, c'est-à-dire l'homme, l'honnête homme grec qui est à la fois beau et bon, cet idéal de l'homme vertueux, qui est aussi celui qui philosophie, et on rêvera d'avoir des philosophes à la tête de la cité, dans la République de Platon par exemple, eh bien cet idéal repose sur une correspondance, pour reprendre un terme baudelairien, une équation, si vous voulez, une communication entre les transcendentaux. Cette équation est cassée par Baudelaire qui se fait le chantre de la modernité. Et du coup, qu'en est-il de la morale moderne ? Pour mieux le comprendre, la semaine prochaine, nous étudierons Platon à travers les yeux de Maritain. Bonne semaine !